Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Principe Actif et d'HDR. Le pire reste à venir, le pire c'est qu'on ait fini par le croire. Big up à toutes les équipes salariées, bénévoles de nos deux antennes et puis surtout à vous, amis auditrices et auditeurs. Pour m'accompagner en ce vendredi 9 novembre 2018, je suis de nouveau avec Jean-Luc comme hier matin. Bonjour à vous camarades.
Bonjour monsieur Timothée, bonjour et bonjour aux auditeurs de Principe Actif.
Et d'HDR également.
Et d'HDR également.
Et ouais, incroyable. Évreux, le sud de l'Eure, Rouen, la diagonale du mal, comme
quelle
on aime le dire.
Quelle grande région.
Au menu de cette émission, nous écouterons un échange, une interview réalisée hier, voilà, pour donner tous les détails, avec Alex Nicole, directeur du Festival du Film Fantastique de Rouen. C'est la 10e édition ce week-end. Il y a des projections ce soir et demain soir, et également une convention du côté de la Halle aux Toiles. Les projections, elles, ont lieu du côté de l'Omnia République, donc tout ça, c'est évidemment à Rouen. Nous retrouverons également Bruno Botterf, chanteur et directeur artistique de l'ensemble vocal Ludus Modalis, pour vous parler d'un projet, d'un disque qui est sorti il y a peu, Les Vêpres de la Vierge Marie. Voilà, œuvre originale de Claudio Monteverdi, ça nous rajeunit pas. Le Bruno Botterf fait son ensemble, Ludus Modalis en ont réalisé une version un petit peu différente. Voilà, on aura l'occasion d'en parler avec lui, il devrait nous rejoindre sous peu à nos micros. Et puis, comme chaque vendredi, on retrouvera le marronnier du jour avec l'ami Olivier, qui aujourd'hui nous parlera, pour être original, du 11 novembre. Aujourd'hui on est le 9, mais vous savez que dans quelques jours ce sera le 11. Alors, voilà, une question de logique et de mathématiques là-dessous, je suis pas sûr que ce soit très clair, mais enfin je crois que si en fait. Ça c'est le menu du jour. Oui, on fera également un détour du côté de vos messages répondeurs, du bon son, de la bonne humeur, en tout cas on l'espère, des bons plans également. Et justement, on va ouvrir cette émission avec un peu de musique, avec Bombino qui sera en concert ce soir du côté du Cube à Évreux. Et le morceau qu'on écoute, c'est le morceau qui s'appelle Bogassa. Merci d'être à l'écoute de Principe Actif et d'HDR.
Thank you.
Nous venons d'écouter le groupe Bombino. Le morceau s'appelle Bogassa. Ils sont en concert ce soir du côté du Cube à Évreux.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah là, t'es mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Et 95.9 et 99.1, évidemment.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs normands et plus particulièrement rouennais. Car ce soir, vendredi 9, les vagabonds de l'énergie te proposent un apéro pour te dégourdir le cerveau. On va parler de la transition énergétique, et plus particulièrement des coopératives locales de production d'énergie renouvelable. Et pour ça, on va poser les bases, on va regarder des reportages qu'on a préparés, et discuter pour comprendre quelles sont les alternatives aujourd'hui. Alors si toi non plus t'aimes pas Engie, Areva ou Total, et que tu sais pas comment faire pour arrêter de leur filer ton pognon, cette soirée est faite pour toi. Ça démarre à 19h, ça se passe à la Biocoop du centre-ville rue Jeanne d'Arc à Rouen, c'est gratuit et en plus, on te paye un coup à la fin. Allez, à ce soir.
Bah dis donc, ça a l'air sympa ça. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos infos, vos réactions, vos coups de gueule, vos coups de cœur, ou tout simplement nous donner de vos nouvelles, nous faire des petits bisous, on prend aussi. Et pour cela, ça se passe au 02 32 62 57 32, je le répète, 02 32 62 57 32. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous saisir, à vous emparer de cette zone d'expression radiophonique qui est la vôtre. On repart en musique.
Sherlock of North America. Catalog number TG211 CD. Audio compact disc. 44.1 kHz sample rate. 16-bit word length. Samples represented in 2's complement binary. 8 to 14 expansion. Set reproducer for reference level. 1000 Hz.
To the one true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were a long time ago. There are two people here, and I want you to kill them. Her, she can go quietly by disease or a blow to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her, in that particular place. Him, just fucking kill him. I don't care if it hurts. Yes, I do. I wanted to fucking kill him, but first make him cry like a woman. No particular. Fucking kill him. Kill him already. Kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already. Kill him. Fucking kill him. Fucking kill him. Kill him already. Kill him. Just fucking kill him. Fucking kill him. Fucking kill him already. Kill him. I'm fucking kill him. Fucking kill him. Kill him. Kill him. Just fucking kill him. Kill him already. Kill him already. Kill him. Amen.
Nous venons d'écouter Shellac avec le morceau qui s'appelle Prayer to God.
Oh bah c'est bien, c'est bien. Et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans
ça
être... Oui.
Principe actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, bah merci de toutes ces précisions.
HDR, principe actif.
Nous sommes maintenant avec Alex Nicole, directeur du Festival du Film Fantastique. C'est la 10e édition ce week-end. Bonjour à vous Alex.
Bonjour.
10e édition qui se déroule du 9 au 11 novembre 2018 entre le cinéma Omnia République et puis la Halle aux Toiles de Rouen, évidemment. Pour attaquer cet échange, je le disais, 10e édition, un festival qui commence voilà à compter dans le paysage des festivals de cinéma et de films sur la région rouennaise. Comment on fait pour se renouveler tous les ans pour proposer de nouvelles choses et comment ça évolue un peu dans le temps?
Je pense que déjà on est passionné par ce qu'on fait. Donc déjà de base c'est pas les idées qui manquent. Donc en fait on essaye toujours tous les ans d'apporter une petite nouveauté ou des nouvelles idées qui rentrent quand même avec les moyens qu'on a.
Dans ce festival, pour cette 10e édition, on va retrouver des projections qui auront lieu notamment à l'Omnia République et puis une convention qu'on retrouvera à la Halle aux Toiles. On va prendre le temps de parler un petit peu de cette convention, mais avant ça, notamment sur les projections, il y a deux soirées de projections, si je dis pas de bêtises, avec à chaque fois, il y a une vingtaine de courts-métrages en compétition et deux classiques de la science-fiction signés John Carpenter qui sont à l'affiche. Avant de parler un peu du choix de John Carpenter, je veux bien qu'on revienne sur un peu l'idée de la compétition, sur les courts-métrages, comment ça s'organise et comment on choisit les films en compétition justement, et qu'est-ce qu'on va chercher en les mettant en avant comme ça au travers d'une compétition.
Nous en fait chaque année on lance un appel à films où du coup amateurs, étudiants, professionnels peuvent nous envoyer leur création, on va dire, et nous ensuite on réunit un petit comité de sélection qui va visionner tous les films et en fait faire une sélection cette année de 20 courts-métrages.
Et du coup, je disais, ça s'enchaîne avec des classiques de John Carpenter, on va les nommer d'ailleurs, New York 97 et Invasion Los Angeles. Comment ça s'est fait le choix sur ces classiques-là de John Carpenter?
Alors souvent, c'est les films qu'on choisit, parce que tous les ans, on choisit des classiques de genre ou de science-fiction. Et en fait, ça se fait toujours en étroite collaboration avec l'Omnia. Donc comme déjà en fait c'est parce que ces films-là ils ont été remasterisés en 4K et l'Omnia avait aussi pour sa soirée Halloween trois autres films de Carpenter, donc ça permettait de faire un petit cycle assez sympa.
Justement, plus globalement, au-delà de ce festival du film fantastique, c'est quoi vos liens avec l'Omnia et puis aussi avec le réseau moteur, le réseau des festivals de cinéma de Rouen? Et puis au-delà de quels sont vos liens, qu'est-ce que ça permet d'être en réseau comme ça avec et l'Omnia et tous les autres festivals rouennais?
Alors l'Omnia déjà, on travaille ensemble depuis pas mal d'années. Puis du coup on va dire que c'est une affaire qui roule, hein. Chaque année on est toujours un peu sur le même fonctionnement, donc on est un petit peu rodé à ce niveau-là. Mais voilà, après on a la chance aussi d'être un festival qui peut diffuser aussi bien les courts-métrages que les longs-métrages dans une vraie salle de cinéma.
Et du coup, l'apport, les liens avec les autres festivals de cinéma sur Rouen,
en fait, déjà, on est une ville où je crois, une des villes où il y a le plus de festivals en France par rapport au cinéma. Et du coup, en fait, le but de Moteur, c'est d'essayer un petit peu de mutualiser un peu notre réseau afin de se développer, parce que organiser un événement ou un festival comme ça, ça prend du temps, faut des moyens, faut aussi des gens qui nous aident beaucoup chaque année. Donc en fait, c'est vrai qu'on essaye de se réunir afin d'améliorer les choses et de se faciliter un petit peu de se faciliter la vie un petit peu au niveau de l'organisation de chaque festival.
Pour en revenir à ce qu'on va retrouver ce week-end dans le cadre de cette 10e édition du Festival du Film Fantastique, sur la partie convention qu'on retrouve à la Halle aux Toiles, qu'est-ce qu'on va y retrouver comme chose pourquoi et comment?
l'idée de la partie convention, en fait, c'était vraiment une extension de la partie cinéma, parce que la partie projection a toujours existé. Je crois que la partie convention, elle existe depuis depuis à peu près 4-5 ans. Et en fait, c'est que ça permet aussi de montrer un univers fantastique au-delà du cinéma. Donc, on va retrouver des artistes, des artisans, des auteurs de BD, des dessinateurs, des doubleurs aussi, parce qu'on fait venir le dimanche des comédiens français qui sont spécialisés notamment dans le doublage. Et voilà, en fait, ça permet d'ouvrir un petit peu plus le festival à d'autres arts que le cinéma lui-même, qui sont souvent complémentaires au final.
Très bien. Où est-ce qu'on retrouve toutes les infos sur cette 10e édition du Festival du Film Fantastique?
Alors, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site rouenfantastique.com et aussi on a un Facebook où on met quasiment des infos tous les jours.
Très bien. Eh bien,
voilà.
Merci à vous, Alex Nicol. Je rappelle que vous êtes le directeur de ce festival du film fantastique 10e édition du 9 au 11 novembre. Avec convention et projection entre la Halle aux Toiles et l'Omnia République à Rouen. Merci à vous, Alex.
Merci à vous.
Voilà, des choses un peu plus étonnantes et ça nous permet d'accueillir maintenant notre invité. Nous accueillons maintenant Bruno Botterf, vous êtes créateur et chef de l'ensemble vocal Ludus Modalis. C'est vous qu'on vient d'entendre à l'instant. Est-ce qu'on vient plus précisément d'écouter, même si je vais vous demander de me compléter. C'est un double album consacré aux vêpres de Monteverdi, aux vêpres de la Vierge. Une œuvre donc de Monteverdi. Qu'est-ce que précisément... déjà, bonjour à vous, Bruno.
Bonjour.
Je rappelle également que vous êtes animateur sur l'antenne de Principe Actif depuis la fin de la saison dernière, un mercredi sur deux à 21h.
Exactement. J'ai le plaisir de mener l'émission Vous avez dit classique, tous les mercredis, toutes les deux semaines, ouais, en effet.
Voilà, un moment privilégié pour écouter de la musique classique, baroque, des choses un peu surprenantes et qui dénotent complètement avec notre antenne, mais nous sommes ravis de vous accueillir sur ce temps d'antenne, et y compris aussi ce matin. Bruno, oui, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Alors, on va revenir évidemment sur l'intégralité de l'œuvre, et puis ce que vous avez eu comme vision, comme lecture au travers de ce double disque, mais là précisément, on vient d'écouter l'ouverture de l'album.
Les premières notes. Les premières notes de ces Vêpres de la Vierge de Monteverdi. Monteverdi, c'est un compositeur qu'on dit compositeur baroque, c'est-à-dire qu'il est né à la fin de la Renaissance, en 1567, et donc a enjambé le siècle, est décédé en 1643. Donc, compositeur italien, reconnu mondialement, je dirais maintenant, et qui a avant tout œuvré dans la musique polyphonique, c'est-à-dire la musique à plusieurs voix, musique vocale beaucoup. Il a écrit de la musique d'opéra également. Il y a une œuvre qu'on connaît qui s'appelle l'Orfeo, le couronnement de Poppée, qui sont des opéras très, très reconnus. Il a écrit beaucoup de madrigaux, donc des morceaux à plusieurs voix, polyphoniques, toujours polyphoniques. C'est donc quand plusieurs voix sont empilées et fonctionnent ensemble. Et puis, il est connu donc pour ce recueil de 1610, publié en 1610, qui s'appelle Les Vêpres de la Vierge. Vêpres de la Vierge, bon, on se dit musique sacrée, musique religieuse. Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire que Monteverdi était un compositeur. Il était difficile de vivre autrement qu'en étant pas au service. Il fallait être au service des ecclésiastiques.
C'est donc une commande, cette œuvre, cette partition, et par qui elle a été commandée?
Je ne pense pas que ce soit une commande, c'est plutôt une supplique qu'il espérait, en fin de compte, par la publication de ce recueil. En l'adressant au pape Paul V, il espérait peut-être une récompense qui aurait pu être de quitter sa ville de Mantoue, où il était très bien, mais c'est une petite ville, et aller à Rome en réalité.
Si je peux me permettre une remarque un peu triviale, est-ce qu'on pourrait appeler ça presque de la drague papale?
De la drague papale?
Non, mais en tout cas...
Non, mais bien entendu.
Une envie de séduire le souverain pontife.
Mais évidemment, évidemment, le statut du musicien n'est pas aisé, hein, toujours. Et il ne l'était pas, donc il gagnait sa croûte, il vivait correctement, mais il espérait autre chose. Donc il a, en fin de compte... C'est intéressant d'aller voir la source. C'est-à-dire, la source, c'est la partition d'origine. Et la partition d'origine, elle indique pas Veb de la Vierge de Monteverdi. Elle indique Messe in illo tempore.
Ce qui veut dire?
La messe sur un motet illo tempore d'un compositeur qu'on connaît, qui s'appelle Gombert, un compositeur franco-flamand. C'est toujours des choses peu. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Donc, il a pris une pièce vocale d'un compositeur qui s'appelait Gombert, Nicolas Gombert, compositeur franco-flamand, donc qui avait œuvré plutôt dans les Flandres, dans la Belgique actuelle, qui avait aussi travaillé en Italie. Il a écrit cette pièce vocale. Monteverdi a pris les thèmes de cette pièce vocale, de ce motet de Gombert, et il en a écrit une messe. Une messe, donc, à six voix, donc avec six registres, des sopranos, des altos, des ténors et des basses. Il a écrit cette messe, et il l'a mis devant les vêpres, dans le recueil, donc ça s'appelle Missa in illo tempore, et puis en tout petit, et Vêpres à la Vierge. Et donc c'était intéressant, c'est qu'il s'est dit, pour envoyer ça au pape, il vaut mieux lui mettre une messe. Ces Vêpres, ça sera la partie la plus importante. Peut-être que dans le temps, cette œuvre va devenir emblématique, mais la messe, ça touchera plus le pape, puisqu'il fait ça tous les dimanches et tous les jours. Voilà. Et ce qui est intéressant, j'ai cherché un peu plus loin et puis je me suis aperçu que cette partition de 1610, ces Vêpres de la Vierge, qui ont été enregistrées et chantées par tous les musiciens professionnels, parce que ça demande quand même beaucoup de choses, musiciens professionnels du monde, a des particularités. C'est-à-dire qu'il y a la version que l'on connaît, avec des instruments spécifiques de cette période-là, les cornets à bouquin, qui sont des instruments en bois recouverts de cuir, avec un système qui est un peu des clés comme sur la flûte, mais avec une embouchure de cuivre, comme les instruments. Donc c'est un instrument avant avec une embouchure. Les violons, évidemment, les clavecins, les théorbes, tous ces instruments qui existaient à l'époque, sont utilisés dans la version commune. Mais il y a aussi des indications dans la partition, sur la partie de basse continue, la partie de basse, de violoncelle, de clavecin, que les ritournelles instrumentales sont ad libitum. Ben, ça veut dire qu'on a le droit de ne pas les faire. À partir du moment où on ne les fait pas, ça veut dire que les instruments n'ont pas besoin d'être là. Donc c'est un peu ma démarche. Et puis, j'ai constaté également que dans la partition, il y avait deux magnificat. Pour clore systématiquement les vêpres, il y a toujours un magnificat.
Ce qui, pour les novices comme nous, ce qui correspond à quoi?
Une pièce à la Vierge, de louange, qui se termine par l'Alléluia, la joie, enfin, que c'est la pièce conclusive de ces vêpres. Les vêpres étant une pièce, un office qui se tient en général dans l'après-midi.
C'est la fin du jour.
La fin du jour, donc milieu d'après-midi. Alors, il y a des vêpres tous les jours. Moi, je ne suis pas pratiquant du tout, hein, mais je sais tout ça. Tous les après-midi, donc, il y a les vêpres vers les 16h, 17h. Et puis, le dimanche, il y a des vêpres un peu plus fastueuses.
Conséquentes.
Jean-Luc?
Oui, au-delà de la démarche artistique, vous avez une démarche historique, hein, musicologue également, et puis je vois que vous êtes au plus près de la manière de chanter de l'époque. Quelle est la langue que vous utilisez? Je pense que c'est le latin, mais est-ce que ce n'est que le latin? Est-ce que c'est le latin de l'époque?
Ah, c'est intéressant. Oui, c'est le latin. Le latin de l'Italie de l'époque.
Oui.
Parce que le latin était la langue commune. C'est vrai que tous les manuscrits et toute la littérature et musique du Moyen-Âge jusqu'au XVIIe, je dirais, et tous les textes officiels étaient écrits en latin. C'était une espèce d'espéranto qui permettait à tout le monde de se débrouiller et de se comprendre, enfin, tous les lecteurs. Donc, le latin était pratiqué partout, et il était pratiqué aussi en Normandie. Et ce qui est clair, c'est que si des chanteurs de l'époque à la cathédrale d'Évreux avait eu cette partition-là, il ne l'aurait pas prononcée comme nous l'avons prononcée dans ce disque. Parce que là, on a opté pour une prononciation italienne-romaine, 17e, mais il y avait une prononciation française du latin, où le « um » n'était plus « um », mais « homme », et « dominum », et « vobiscum », et « magnificat » au lieu de « magnificat ». Des petites choses, des petites particularités, et qui faisaient que cette langue était... les gens se l'appropriaient, voilà, et des Polonais ne prononçaient pas, le Polonais ne prononçait pas, ou le Belge ne prononçait pas le latin de la même manière que... Oui.
Pour, même si on a commencé à aborder le sujet, votre interprétation et cet objet disque, double disque qu'on a sous les yeux, là, sous la main, voilà, vous avez commencé à aborder le sujet, vous avez eu une lecture de la partition en enlevant la plupart des instruments. Alors, voilà, vous me reprenez quand je dis des idioties, et pour faire la part belle, évidemment, aux voix, à ce qu'on a entendu là en ouverture, mais aussi à un ordre. On en parlera peut-être dans un instant, mais juste préciser, voilà, vous le disiez, ce n'était pas une obligation pour Monteverdi à l'écriture de l'œuvre que tous les instruments jouent ce que vous appeliez les ritournelles.
Oui.
Voilà. En gros, pourquoi deux versions quelque part dès le départ ?
C'est-à-dire que la présence de l'orgue, elle est évidente dans tous les cas. C'est-à-dire que l'orgue d'église n'est pas un tout petit instrument. Hein, c'est des instruments assez conséquents, avec des caractéristiques particulières aussi. En Italie, la facture d'orgue, la fabrication des orgues et la nature de ces orgues étaient différentes de celles que nous avions ou que nous avons en Allemagne, en France, à la même époque. Ça veut dire des choses très particulières, un son basé sur ce qu'on appelle un principal, un fondamental, et après un système de tirage de jeu qui crée des harmoniques. C'est-à-dire qu'on a un son fondamental, et puis ensuite on a ce qu'on appelle la quinte, donc la note qui sonne une 5 de ré mi fa sol au-dessus, puis ensuite la tierce supérieure. Donc c'est le système des instruments italiens, donc c'est des instruments qui ne sont pas très larges, très imposants, mais riches sur le plan du timbre. Donc dans les deux versions, la version traditionnelle, je dirais, avec instrument mélodique ou concertant, il y a aussi l'orgue. Si ce n'est que là, il devient le fondement de la chose. Donc, les deux Magnificat dont je parlais tout à l'heure, il y en a un qui fait appel à cet instrument concertant, dont l'orgue, et un autre où il y a les registrations, c'est-à-dire les indications précises des timbres utilisés par l'orgue, mais uniquement par l'orgue. Alors, la version que j'ai proposée, moi, donc, n'est pas une version économique, c'est une version qui est plausible, qui serait une sorte de prémisse de la version plus bigarrée, peut-être plus désorganisée que Monteverdi a proposée, la version qui serait plus proche de l'esthétique de la Renaissance, si vous voulez. C'est-à-dire plus proche des motets, de la musique vocale polyphonique, et qui serait un peu moins décousue. Parce que le problème de ce recueil, c'est qu'il n'est pas très homogène, à mon goût. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont issues de ce qu'on appelle la prima pratica, le style ancien, et puis d'autres qui sont du style nouveau. Et c'est ce qu'on parlait quand vous parliez de drague au pape tout à l'heure, c'est-à-dire que forcément, il s'est dit, je vais quand même proposer des choses un petit peu plus modernes, parce que je suis pas quand même... Voilà, il commençait, il avait 50 ans, mais, ou 45 ans, il fallait qu'il montre quand même vers quoi il pouvait aller. Donc,
il était temps pour lui de marquer son territoire.
Exactement, il l'avait déjà fait, mais là, c'était le moyen. Et d'ailleurs, ça a été le moyen. Sauf que, je vous dis, peu d'interprètes, en tout cas contemporains, se sont préoccupés de ça, se disant « oui, mais c'est quand même dommage, parce que, quelque part, c'est une version un tout petit peu réduite, un peu Givaro, on est sur une autre... » Non, elle doit exister. Et c'est pour ça que cette version se dise que moi, j'en suis plutôt satisfait, quoi. Alors, donc, on peut parler peut-être de cet orgue. C'était un orgue qui a été...
Oui. Vous l'avez quelque part, je sais pas. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ou cet orgue qui vous a choisi pour ce projet? J'ai l'impression qu'il y a, en lisant ce qu'on peut retrouver dans le disque ou ce qu'on a pu lire dans la presse notamment, il y a une rencontre avec un organiste, on va le citer, Thomas Pellerin, si je dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait.
Et avec un orgue particulier, spécifique,
oui,
visiblement unique en France, c'est ce que j'ai cru comprendre. Qui se trouve à Pranzac,
oui.
C'est en Charente,
Charente
de mémoire.
Et c'est un orgue qui a été fabriqué par un facteur d'orgue actuel qui s'appelle Bernard Boulet, qui a donc fait un instrument librement, hein, mais librement inspiré d'un facteur d'orgue du XVIIe, Antegnati, qui a été l'auteur de beaucoup d'instruments qui existent encore. Alors évidemment, apprends ça qu'il a fallu faire avec du bois neuf un instrument ancien. Enfin, en tout cas, d'inspiration ancienne. L'instrument, il est très beau. Je sais qu'il y a encore un projet pour le rendre encore plus beau, parce que toutes ces choses-là, peut-être que...
Oui, oui, justement, je me posais la question. On ne retrouve plus d'instruments qui sont d'époque baroque, d'époque renaissance.
Si, mais ils sont dans des lieux bien précis. C'est-à-dire qu'à San Petronio de Bologne, il y a deux instruments absolument extraordinaires.
Sur lesquels les musiciens peuvent exercer leur art.
Bien sûr, mais à Bologne.
D'accord.
Et ça commence à devenir compliqué d'aller enregistrer un album à Bologne.
Il y en a beaucoup d'instruments, mais ils sont tous en Italie. D'accord. L'avantage, je me suis musicien français, j'ai trouvé intéressant. Le projet, il se fait avec un ensemble majoritairement français. Il y a, dans Ludus Modalis, il y a aussi des chanteurs étrangers, bien entendu, des musiciens étrangers. Mais quand même, c'est un label qui n'est pas un label français. Ramé, notre label, est un label allemand, belgo-allemand. Je souhaitais intéressant de travailler avec un instrument historique, enfin d'inspiration historique en France, sachant qu'il y en a peu.
Donc on disait juste pour être tout à fait précis en termes géographiques, dans les Charentes, à Pranzac, c'est l'église de Saint-Cybard. C'est comme
oui,
ça.
Il n'y en a pas 36. Hein.
Voilà. Bon, non, mais comme ça, on aura. Et ce que je vous propose, c'est qu'on écoute justement un extrait du disque qui fait la part belle à l'orgue. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Toujours un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a dans cette version des Vêpres. Le petit hic, c'est qu'il y a une pièce que Monteverdi a écrite qui s'appelle la Sonata Sopra Santa Maria, qui est une pièce assez virtuose, écrite justement pour les instruments, pour cornet, violon, sac-bout, les trombones de l'époque. Et il se trouve que c'est une pièce qui normalement n'appartient pas à l'Office des Vêpres, hein, logiquement. C'est un petit bonus que Monteverdi avait écrit. Dans la version pour laquelle nous avons opté, il n'y a pas d'instrument concertant, donc il n'y a pas cette sonate-là. J'ai dû donc choisir une autre pièce, et j'ai arrangé une pièce de Frescobaldi. Frescobaldi était l'organiste de Saint-Pierre de Rome, donc ce n'est pas totalement le hasard. Et c'est une pièce donc, qui est écrite pour cinq voix. Là, je l'ai instrumentée avec une voix chantée par les sopranos, qui chantent Sancta Maria, Sainte Marie, prions pour nous, enfin un truc... La prière habituelle, et puis l'orgue et une sac-bout, donc un trombone historique, et une basse de cornet, qui est un instrument, le cornet à bouquet, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est un instrument de la famille du cornet, mais qui est la partie basse, et qui ressemble grosso modo à un serpent. C'est toujours du bois, recouvert de cuir, et avec une embouchure.
On écoute un petit peu tout ça.
Thank you.
Voilà, nous venons d'écouter l'ensemble Ludus Modalis, avec qui voilà, nous avons le directeur et créateur de cet ensemble, à savoir Bruno Botterf. On vous parle de ce double album, ce double disque sorti il y a peu. D'ailleurs, il est sorti quand, Bruno? On l'a pas dit.
Il est sorti officiellement le 15 ou 16 octobre.
De cette année.
Oui, il y a très peu de temps.
Oui,
voilà, j'attends avec impatience le premier commentaire de la presse.
On est dans l'actu, comme on dit. Une œuvre, de Claudio Monteverdi, Les Vêpres de la Vierge Marie. On parlait juste avant d'écouter cet extrait de la présence de l'orgue,
ouais.
Notamment, du fait que vous aviez ciblé, repéré un endroit où il y avait cet orgue particulier. Et on se disait, hors antenne, qu'il aurait été intéressant peut-être de parler des autres instruments, même si vous aviez déjà un petit peu abordé le sujet, qu'on retrouve sur ce disque, et puis plus globalement qu'on retrouve aussi, qui on retrouve dans Ludus Modalis. Oui. Mais une question à deux tiroirs, saisissons le premier. Qu'est-ce qu'on retrouve comme instrument concrètement sur ce double album?
Alors, outre les 12 voix solistes que l'on entend, parce que voilà, c'est peut-être la première chose, je commence par ma parenthèse initiale, ou liminaire, cette version se différencie des autres versions par l'utilisation de voix solistes. Les sopranos sont quelquefois deux, mais globalement, toutes les autres voix sont seules. La plupart des versions habituelles font appel à un chœur et des voix solistes. Donc c'est une option un peu différente, et qui est historiquement informée. C'est-à-dire que je sais très bien qu'à Mantoue, dans les années où Monteverdi a composé ses Vêpres, il avait à sa disposition 8 chanteurs. Donc, il pouvait avoir des enfants qui chantaient en plus les parties de dessus, parce que les femmes n'étaient pas invitées à l'église. Bon, ça, c'est juste des particularités. Outre ça, il y a donc un instrumentarium bâti autour de cet orgue dont on a parlé, de Bernard Boulet, inspiré d'Antegnati, des instruments d'accompagnement, deux clavecins. Un clavecin de type italien, une copie d'un instrument du 17e italien. Un autre clavecin qui a la particularité, lui, de ne pas être comme le clavecin habituel, c'est-à-dire qu'il est encordé en boyau et non pas en métal. Donc c'est un son qui est plus souple, qui est plus proche de ce qu'on pourrait appeler les instruments type luth ou théorbe. Donc qui est presque plus polyphonique. Donc il est utilisé pour les pièces à voix seule, parce qu'il y a dans les Vêpres des grands tutis, des tutis, c'est-à-dire quand il y a tout le monde, des grands passages où il y a les 12 voix et les 6 instruments, et des passages où il y a beaucoup plus d'intimité. Je pense à un motet où il y a même du grégorien, où il n'y a plus qu'une seule voix. Et puis... parce que c'est une reconstitution plausible d'un office de vêpres. Alors, bien sûr, il n'y a pas le prêtre, mais il y a les intonations. L'idée, c'est quand même de s'approcher le plus près possible de ce qu'a pu être un office de vêpres au XVIIe. Et pas de faire simplement un disque pour faire un disque. Voilà. Donc, je continue mes instruments, mes deux claviers, une basse de viol. La viole de gambe était l'instrument noble qui était utilisé à cette époque-là, et le violoncelle n'était pas encore en vogue. Le violoncelle était considéré comme un instrument. Curieusement, le violon et le violoncelle sont les instruments qui étaient plus populaires, plus utilisés dans la musique de rue. Très, très bizarrement.
Alors, la viole de gambe, c'est ce qu'on retrouve dans le film Tous les matins du monde.
Exactement.
Marin Marais.
Un instrument à 6 cordes, avec donc des frettes. C'est un système de barrage des cordes qui permet de jouer vraiment les intervalles les plus purs possibles. Ce qui n'est pas le cas sur le violoncelle ou le violon, où il n'y a pas de frettes. Donc, c'est les doigts qui vont faire le travail. Et ensuite,
les deux instruments d'avant,
la sacque-boute, qui était donc ce qu'on pourrait appeler le trombone, l'ancêtre du trombone, sacque-boute, qui veut dire tirer, pousser, sacque-boute, pousser, tirer plutôt. Voilà, et puis cet instrument, donc un peu étrange, qui a une forme de serpent, mais qui s'appelle la basse de cornet, et qui a eu un frère, notamment en France, qui s'appelait le serpent. Donc un instrument qui est assez volumineux et qui a une embouchure comme une embouchure de trombone ou de trompette. Petite embouchure en bois. Un instrument qui est, ou en bois, j'en sais rien d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne suis pas trompettiste. Donc en tout cas, ce n'est pas du métal à l'époque. Peut-être de la corne ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça fait quelque chose d'assez assez complet quand même comme effectif. Donc 12 chanteurs, 6 instruments. Et un son, on a travaillé aussi avec le preneur de son et avec le directeur Rainer Arndt pour avoir une impression quand même de générosité, d'ouverture. C'est-à-dire qu'on peut, dans ce disque, je crois, entendre vraiment tout le monde. Ce n'est pas un son concentré et réduit. Ce n'est pas une version de musique de chambre. C'est-à-dire que c'est une plénitude, mais avec un petit effectif. Donc l'idée de la spatialisation est importante.
Le temps avance et c'est très bien en même temps. C'est un plaisir de vous écouter comme ça de bon matin, Bruno. Mais voilà, peut-être insister en conclusion sur cette démarche que vous avez eue de production de ce double disque, tout simplement. Voilà, en quelques mots, pourquoi ça vous tenait autant à cœur de proposer une autre version, entre guillemets?
Mais parce qu'elle n'existait pas et que je savais qu'il fallait qu'il fallait absolument la faire. C'est pas forcément économiquement viable, mais c'est nécessaire sur le plan. Je pense que le disque n'est pas qu'un objet qu'on jette comme un mouchoir en papier. Mais c'est plutôt un mouchoir en tissu. je pense que moi, j'ai beaucoup de plaisir à ressortir un disque de ma discothèque et à réécouter des disques en se disant, tiens, il n'a pas vraiment vieilli. Et il m'apporte encore quelque chose, un complément d'information. Je suis très fier de ça et je trouve intéressant, par exemple, le texte qui accompagne le disque mérite d'être lu aussi. C'est l'œuvre d'un jeune musicologue qui s'appelle Clément Stagnol et qui a vraiment réfléchi à la problématique, justement, du musicien. Pourquoi faire un disque? Pourquoi faire cette version? Mais parce qu'elle a besoin, elle n'existe pas. Bon, elle existe uniquement sur le papier. Donc faisons-la et puis essayons de la faire le mieux possible pour que cet objet devienne un peu le référent. J'ai lu récemment une critique justement anglaise au sujet du disque où ils expliquent que c'est pas la version des Vapes qu'il faut avoir, mais c'est la version des Vapes qu'il faut avoir en complément de la bonne version qui serait avec instrument concertant. Donc voilà, c'est très très bien. Pour moi, c'est le travail est fait et a trouvé toute sa justification, quoi.
Très bien. Merci à vous, Bruno Botter. Je rappelle que vous êtes le créateur et le chef de l'ensemble Ludus Modalis. On parlait avec vous depuis tout à l'heure de ce double disque consacré aux Vêpres de la Vierge Marie de Monteverdi. Où est-ce qu'on peut éventuellement le trouver, si on le cherche?
On le trouve évidemment sur les sites de... Les magasins de disques peuvent les avoir, évidemment, si vous allez...
On peut commander chez
les disquaires. Et puis...
Si je vais sur ludusmodalis...
.com, vous pouvez également me l'avoir.
Et voilà. Exactement. Et dernière chose, on a oublié d'en parler. On vous retrouvera, évidemment, un mercredi sur deux sur l'antenne de Principe Actif à 21h pour Vous avez dit classique.
Oui.
Ça tombe pas. La semaine prochaine, ce sera la semaine suivante.
Dans deux semaines.
Et on aura largement le temps d'en reparler puisque ce sera au mois de mars. Mais rappelez que vous organisez également un festival qui s'appelle Un Sacre du Printemps.
Tout à fait.
On peut juste donner la semaine, les dates.
La date est toujours autour du 21 mars, le printemps, et la naissance de Jean-Sébastien Bach. Donc il y aura un concert de Ludus Modalis pendant ces quelques jours. Et puis on retrouvera les Vêpres au festival d'Arc la Bataille en août prochain. Et dans d'autres dates, notamment à la scène nationale d'Evreux. Aussi, également. Mais les choses se précisent, donc vous restez informés.
On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous, Bruno Botter. Voilà, un un extrait de la chanson de Craon, c'est Les Amis de ta femme dans cette version-là. Version peut-être un peu plus joyeuse que celle qu'on a pu écouter par ailleurs. Ce qui nous permet d'accueillir Olivier. Bonjour à vous, Olivier. Comme chaque vendredi, vous venez chroniquer le marronnier du jour, si je puis dire. Évidemment, cette chanson-là avait un lien avec votre sujet du jour.
Oui, 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 bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, Timothée. Bonjour, Bruno et Jean-Luc. Un lien évident, puisque c'est une chanson après la bataille de la Marne, qui décrivait les tourments de ces soldats sur les buts pas loin de Paris, d'ailleurs, alors qu'ils défendaient la capitale et qu'ils commençaient à creuser des tranchées. Hein. C'est une chanson assez récente dans la guerre. Ça va être le sujet du jour. On s'est pas vu pendant une quinzaine de jours. Vous m'avez bien manqué tous. Et puis on a manqué aussi quelques marronniers incontournables, hein, durant ces deux semaines. Il y a eu Halloween, la fête des morts avec ses citrouilles, ses déguisements, les parades mexicaines et les cocktails fumants. Et généralement assez troublant. La Toussaint le lendemain avec ses chrysanthèmes. Alors moi j'ai pas trop l'habitude de fêter les morts, mais j'avoue cette année avoir dansé une gigue particulièrement joyeuse à l'annonce de la disparition d'un vieux facho révisionniste quelques jours avant. J'ai éprouvé un sentiment d'apaisement en comprenant que la mémoire de nombreux autres morts sera un peu moins souillée par les élégubrations du faussaire de l'histoire, même si certains abrutis nostalgiques de Brasillac s'emploient à cultiver la même irrationalité nauséabonde. Alors, d'histoire et respect des morts, en ce 9 novembre, il en est question. Ce sont bientôt les commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, une guerre bien particulière. C'était celle préférée par Brassens, où l'homme avec un grand H, et surtout l'homme, hein, plus que la femme, a pu développer toute sa puissance industrieuse et technologique, faire avancer la science et la technique dans l'espoir d'exterminer le plus grand nombre de ses semblables. Donc un peu plus de 18 millions de morts en moins de 5 ans. C'est déjà pas mal, hein. Sur terre et sous terre, sur mer et sous mer, et même dans les airs. Donc tout ça avant que la nature, grâce à une petite grippe, qui était en fait pas si espagnole que ça, ne ramène l'humanité à son humble condition, hein, en faisant un peu plus de 100 millions de victimes en seulement 2 ans. On sent quand même qu'on n'avait pas encore le niveau, nous, à faire ça entre nous, mais qu'à cela ne tienne, hein, on a recommencé quelques années plus tard. Donc nous aurons donc ce 11 novembre de jolis défilés militaires avec de gros tanks roulant au diesel détaxé pour défoncer les chaussées de nos rues et la marche au pas cadencé de la relève des pauvres poilus. Alors c'est une curieuse image pour la mémoire de ces hommes qui espéraient souffrir de la derdédère que de se glorifier de la tenue des forces armées et des progrès de diverses armes 100 ans après. Alors, histoire sans doute d'assurer une bonne publicité auprès des gouvernements chinois, égyptiens et saoudiens, des bons clients pour nos arsenaux et nos manufactures d'armes. Enfin, toujours meilleur toujours meilleur client que les yéménites qui se prennent nos bombes made in France. Alors, ce 11 novembre n'est pas non plus sans polémique historique, parce que toute guerre c'est héros et on se perd en ce moment à savoir si tous les grands guerriers sont dignes de recevoir les honneurs. Les héros, ce ne sont pas les paysans et les ouvriers, les artisans et les petits fonctionnaires de tous les pays qui se sont entretués dans les tranchées. Hein. Non, les héros, ce sont les chefs, les maréchaux. Et les chefs, ils ne sont pas morts. Ils ont continué à vivre et ils sont restés chefs. Il a été question, vous le savez, d'un grand chef de la Première Guerre mondiale, donc Pétain, un chef de guerre qui a résisté aux Teutons pendant la Première Guerre, et un chef d'État, dictature sénile et fascisant, qui a cédé tout le pays français aux mêmes Germains lors de la Seconde. Enfin, tout le pays, non, il lui restait une petite station de cure thermale qui lui a permis de livrer quelques dizaines de milliers de Juifs, enfants compris, au passage. Enfin, quelques dizaines de milliers, et pas selon Forisson, mais bon, on s'en fout, Forisson il est mort. Ainsi, comme le dit notre jupitérien chef d'État, l'actuel, hein, qui n'est pourtant apparemment ni fasciste ni sénile, on peut avoir été un grand soldat durant la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes pendant la Seconde. Alors il y aurait donc deux Pétains, un héros digne d'hommage et un traître bien embarrassant. Mais si, comme dit le président, il y a deux Pétains, qui est vraiment ce général célibataire encore à 50 ans qui va tenir tête aux Allemands en 1917? Alors déjà, le vainqueur de Verdun, on en parle surtout à partir de 1941. En 1918, dans les années 20, dans les années 30, on parle plutôt de Mangin et Nivelle, pour, comme les artisans de cette victoire. Donc ce sont deux autres étoilés belliqueux. Hein. Donc Pétain, il est plutôt vu comme un défenseur, enfin surtout vu comme un défenseur, et aussi comme un pessimiste, parce que à l'issue de la bataille, qu'il est censé avoir gagnée, il conseille déjà de replier le gouvernement à Bordeaux et d'ouvrir les portes de Paris aux forces allemandes. Bon, c'est une vision assez particulière de la victoire, mais bref. Donc ensuite, le général, il y a l'image du général qui économise ses hommes, qui leur assure un confort, qui est très très proche d'eux, qui leur amène des soins, des ambulances régulières, des hôpitaux de campagne. Bon, lui, pareil, on en entend surtout parler dans les années 30, à partir du moment où il va devenir maréchal. Parce que celui dont on parle surtout à l'issue de la bataille, c'est le général qui met fin aux fraternisations avec l'ennemi. Elles sont nombreuses sur le front. Donc il va y mettre fin à un grand coup de cour martial et de condamnation à mort. Bon, ça va être pareil pour les mutineries qui sont tout aussi nombreuses et qui vont être réprimées avec des conseils de guerre et des pelotons d'exécution. Il y a environ 600 soldats français qui vont être exécutés et fusillés dans les semaines qui suivent sa prise de fonction. Une jolie remise en ordre. Alors c'est peut-être là où est l'hommage hein, de la start-up Macron à cette forme de RH. C'est sans doute un exemple à suivre pour notre nouveau chef d'État. Le peloton d'exécution, hein, ça pourrait être un bon moyen, une bonne réponse pour qui fait preuve, selon le vocabulaire présidentiel, d'irénisme naïf. Alors, l'irénisme, c'est une aptitude compréhensive afin de privilégier l'union. Pour qui ne serait pas aussi disruptif, donc on en a parlé il y a 3 semaines, hein, être acteur d'une rupture économique, c'est ça ce que ça veut dire. Et pour qui ne respecte pas l'ipséité. Alors l'ipséité, c'est l'identité propre de chaque être. Donc l'ipséité stricte donc, de l'esprit français. Tous ces manquements vaudraient peut-être un bon petit peloton d'exécution. Alors je ne sais pas si l'image de Pétain aurait pu permettre de vendre quelques avions Rafale ou Charles Leclerc aux Saoudiens, mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il utilise des mots connus, notre président, des mots qu'on arrive à comprendre, comme ceux sur Pétain, ça nous donne quand même envie de faire vivre l'histoire plutôt que la subir.
Très bien. Merci à vous, Olivier. On vous retrouvera eh bien, la semaine prochaine, si tout va bien, si vous n'êtes pas tombé au combat ou mort au peloton d'exécution, voilà, comme vous semblez nous promettre à toutes et tous.
Au combat, je m'en garderai bien.
On repart avec un court extrait musical, deux mots. C'est un projet... Vous pouvez le retrouver notamment sur les plateformes Bandcamp. Parler d'années de la Terre, des voix de lutte de 1969 à 1988. On va écouter un morceau qui a été plusieurs fois reprise. Mais là, c'est la version de Slimane Azem et Sheikh Nouridine, la carte de résidence.
Ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. خسروح كان هني مانيش يلا وغرم ذي ثمرتيش أفضل أمور التمسلتيش كل أسد لي كونفيرانس كل أسد لي كونفيرانس بوري تدي تولي صانس سي فريمون بيان دوماج للراسيزم et le chômage heureusement qu'il y a du sage c'est le prestige de la France
c'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Un gars l'a l'chod maïwar, des migrés t'travalent, y'a l'nas sous marchésen, au carnas t'y a de la chance. Au carnas t'y a de la chance, mais t'sa de la résidence. Le chômage, l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois, ça recommence.
Voilà un extrait du morceau de Slimane, Azem et Cheikh Noureddine, la carte de résidence sortie initiale, ou en tout cas enregistrée initialement en 1979. Vous pouvez le retrouver sur un projet qui me semble intéressant de mettre en avant, avec comme à sa base le rappeur Rossé. Voilà, un disque de une sorte de recueil de toutes les voix de la résistance, des voix de lutte des années fin des années 60 au début des années 90 presque, un peu partout sur l'ex-empire colonial français, mais aussi des chants d'ouvriers de chez Renault par exemple. Donc je rappelle le titre, Parler d'années de la terre, des voix de lutte 1969-1988, c'est sorti tout début novembre. J'ai plus le temps pour les bons plans, bah c'est pas grave, vous savez sans doute ce que vous faites déjà ce week-end, et bah c'est pas plus mal. Juste vous annoncer le programme du jour sur nos antennes dans quelques instants sur Principe Active, vous retrouverez le flash RFI Monde que vous retrouverez également à midi 15h, là où les rediffs, pardon, j'oublie qu'à midi et demi il y a Scène de Vie, Vite Scène en direct du musée d'Evreux. Voilà votre programme de l'actualité culturelle notamment. 15h, 17h là où les rediffusions, Blabla Mix c'est 17h 18h, un privé à Babylone à partir de 18h et Air Jamaica à partir de 22h30. Sur HDR, vous retrouverez pareil, le Blabla Mix 17-18. Afro Talent 19h, 20h. Vivement la fin 20h. Et l'esprit du village à 21h et It's Time 23h. Voilà, je vous invite à vous rapprocher de nos sites internet pour connaître le détail de ces programmes. Je vais remercier mes invités, chroniqueurs et accompagnateurs du jour, à savoir Bruno, à savoir Jean-Luc et à savoir Olivier. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné. De bon matin, on vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de Principe Actif et d'HDR. Ciao, ciao, ciao.